Bonjour. Voilà, je voudrais que nous lisions ensemble le psaume 71, verset 18, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse à l'écoute de cette prédication. Quand j'ai préparé ce message dans mon bureau, ça m'a fait un bien formidable et je suis sûr que si vous écoutez avec, pas seulement avec le cœur, mais avec les oreilles de l'esprit, je pense que ça va vous toucher, ça va vous faire du bien. Alors, psaume 71, verset 18. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à tous ceux qui viendront. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a quelques jours, j'ai vu un dessin animé. Et dans ce dessin animé, il y avait une dame qui disait à son mari, « Mais chérie, tu ne me dis jamais je t'aime. » Et le mari répondait, « Mais chérie, je te l'ai dit le jour où nous nous sommes mariés. Si jamais quelque chose change, tu seras la première à le savoir. » Ça m'a fait rigoler. Et puis voyez, l'autre jour je vous parlais de l'amour agapao, l'amour de Dieu. Je vous disais que c'est un amour qui est plus volontaire que sentimental. Et ce soir je voudrais rajouter quelque chose à ce sujet, c'est que l'amour de Dieu pour les siens, il est complet et inconditionnel. Et ça nous rend heureux, tranquilles, paisibles. Ça nous met dans le repos de savoir que Dieu nous aime, qu'il a un amour profond, inconditionnel pour chacun de nous. Et mes frères et sœurs, cet amour, il n'est pas seulement inconditionnel, il n'est pas seulement plus volontaire que sentimental. Dieu nous a choisis, c'est pour ça que je dis qu'il est volontaire. Hein. Mais son amour, il est plus individuel que collectif. Bien sûr qu'il aime son Église, mais il nous connaît, nous, par notre nom. Il vous connaît, vous, par votre nom, par votre prénom. Quand on étudie l'histoire des hommes et des femmes de foi dans la Bible ou dans l'histoire, on découvre que l'amour de Dieu, pour eux, ça a été un chemin sans limite, puisqu'éternel. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un chemin? Parce que Dieu est amour, on est en train de parler de l'amour de Dieu. Dieu est amour, il est amour, c'est sa nature, il est amour. Dieu est amour, Jésus est Dieu, et Jésus a dit « Je suis le chemin ». Alors l'homme du dessin animé avait dit « Je t'aime » à sa femme le jour de son mariage. Et puis le temps avait passé, et puis ils avaient fait du chemin ensemble, et ils étaient un peu vieux là, et ils avaient eu des bons moments, ils avaient eu des mauvais jours aussi, mais ils avaient avancé ensemble sur ce chemin. Ils étaient encore là, tous les deux, sur ce chemin. Et ils s'étaient donné sans doute des preuves mutuellement, des preuves d'amour, de leur amour. Même si parfois il y avait eu des pleurs, peut-être que lui avait fait pleurer sa femme ou sa femme avait fait pleurer son mari. Ça arrive, hein. Peut-être même que à un moment donné, l'un a douté de l'autre, mais l'amour était toujours là, parce que c'était un amour, enfin, pour ce dessin animé, j'en sais rien, mais en tout cas pour mon épouse et moi, je ne sais pas pour vous, mais quand c'est un amour agapa ou un amour qui est inconditionnel. Ce moment-là, le problème, il disait « jamais je t'aime » à sa femme. L'autre jour, on était avec des amis gitans, et puis la sœur, elle a dit à ma femme, j'entendais, elle parlait derrière, « Moi, je trouve formidable ton mari, il te dit chérie et tout. Ah, mon mari, il ne dit jamais chérie. » Voilà, moi, c'est dans les cultures aussi. Hein, Mais c'est vrai que ça fait plaisir. Vous savez, c'est pas suffisant de présumer que les autres savent que vous les aimez. Ça, c'est une phrase clé. Hein. Je répète, ça n'est pas suffisant de présumer que les autres savent que vous les aimez. Il faut le leur dire de temps en temps. Il faut le leur dire. Dieu est notre Père, il est notre parent et il est notre modèle parfait. Donc, et lui, ben, il nous dit « je t'aime ». Peut-être certains vous allez dire « ah bon ». Moi, je vous dis, peut-être si vous ne l'entendez pas, c'est peut-être parce que quand vous lui parlez trop, vous le saoulez. Dans vos prières, vous parlez trop, vous ne lui laissez pas le temps de vous parler. C'est peut-être ça le problème. Il y a peut-être autre chose, c'est que vous avez perdu la sensibilité pour l'entendre. Les soucis de ce monde, les problèmes, vous savez, On perd sa sensibilité des fois pour des trucs tout bêtes. Moi, je vois par exemple, en devenant vieux, déjà quand j'étais jeune, c'était pas génial, mais maintenant, en devenant plus vieux, eh ben, prier à genoux, pour moi, c'est terrible, parce que quand je prie à genoux, je pense plus à mes genoux qu'à Dieu. Je ne peux pas être sensible à la voix de Dieu, je pense à mes genoux. Ils me font mal, ils me font souffrir. Alors, il y a notre corps qui peut faire un obstacle, il y a aussi nos pensées, parce que nos pensées, on n'arrête pas de penser. Nos pensées, c'est comme un petit cinéma, un petit disque qui tourne sans arrêt, c'est une conversation intérieure, tout le temps, tout le temps. Alors des fois, notre âme, ce qu'on appelle notre cœur, hein, ou notre corps, empêche notre esprit d'être bien présent. Dieu est présent, mais notre esprit est un petit peu étouffé par les problèmes du corps ou les problèmes de l'âme. Et puis, beaucoup ne prient pas assez, c'est-à-dire, il n'y a pas assez de moments d'intimité avec lui pour qu'ils arrivent à écouter le chuchotement de Dieu. Le chuchotement de Dieu. Ce chuchotement qui te dit « Je t'aime ». Dieu est esprit, et vous savez mes frères et sœurs, c'est avec l'esprit que nous pouvons entendre Dieu nous parler. Pas avec notre âme, pas avec notre corps, mais c'est avec l'esprit. Il se cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Il veut parler d'esprit à esprit. Alors, Dieu ne traite pas tous ses enfants de la même manière parce que on est tous différents. Chacun de nous est un enfant absolument individuel. Et Dieu nous a placés avec amour, chacun de nous, dans un corps. Et quand on regarde le corps des autres, on voit bien, voilà, il y a des fois des petits traits de ressemblance, mais quand même, on est tous très différents. Mais il ne nous a pas seulement placés dans un corps qui est différent de celui des autres, mais aussi dans une époque qui est différente, par exemple, de celle de Moïse, ou de celle d'Abraham, ou de celle de Jésus, ou de celle de Louis XIV, ou de... Même, je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois on entend des vieux chrétiens qui disent « Ah, c'est plus comme il y a 20 ans !» Ben, évidemment que c'est plus comme il y a 20 ans. Les choses changent, les choses changent. Et Dieu nous a placés dans une époque, et puis Dieu nous a aussi placés dans une série, il a prévu une série de circonstances. Les circonstances, vos circonstances, les choses que vous vivez, les gens que vous rencontrez, vos lectures, votre travail, tout ça, ça fait que vous avez d'autres circonstances que les miennes. Mais vous devez me croire, mes frères et sœurs. Chacune de ces circonstances que vous vivez est adaptée à chacun de vos besoins. Dieu nous connaît, chacun, parfaitement. On est tous vraiment uniques. Et Dieu, j'ai employé un mot, je ne sais pas tellement s'il est français, mais vous allez le comprendre. Dieu, il aime cette unicité qui fait que chacun de nous, nous sommes ce que nous sommes. Et puis, on doit le prendre comme modèle. C'est-à-dire, tous, nous sommes tous différents, mais c'est lui notre modèle. On n'en a qu'un. C'est lui notre modèle. Alors, nous devons essayer, je dis bien essayer, de donner à chaque enfant cette sorte d'amour dont il a besoin avec son propre corps, le corps de votre enfant, il a son propre corps qui est différent de celui de vos autres enfants, il a sa propre âme, sa propre sensibilité, il est un esprit unique. Nous devons essayer de donner à chacun de nos enfants cette sorte d'amour dont il a besoin. Et puis de même aussi, nous devons essayer, je dis bien essayer, on n'arrive pas toujours, de donner à chaque frère, à chaque sœur dans l'Église de Jésus-Christ, cette sorte d'amour dont il ou elle a besoin. Alors, tout le monde est différent, et puis en plus, il y a des circonstances différentes qui font que, par exemple, quelqu'un qui peut être très fort, très bien un jour, voilà, il va avoir une épreuve, une difficulté, ça va le rendre sensible, voire susceptible. Et puis, il faut s'adresser à lui d'une façon... Il faut être à l'écoute pour pouvoir lui parler et pour pouvoir agir de façon à ce que chacun puisse recevoir de nous la sorte d'amour dont il ou elle a besoin. Ça, c'est l'apprentissage de toute une vie. Alors, Dieu nous aime. Et par amour, pour notre bien personnel et collectif, pour notre bien, il a donné des lois qui sont simples, qui sont claires. Il annonçait aussi les conséquences, hein, récompense, châtiment, Et Dieu n'est pas du tout ambigu au regard de ses règles. D'abord, il les a écrites dans la pierre, hein, c'est solide. Et puis ensuite, il a donné ça à des prophètes, et à ses apôtres. Tout ça s'est écrit dans le livre, dans la Sainte Bible. Et mes frères et sœurs, c'est en ayant des lois immuables que Dieu nous donne les frontières entre lesquelles il veut que nous évoluions. Ces lois, elles nous montrent les frontières, il ne faut pas dépasser. Il faut rester là, dans ce cadre. Et c'est là que nous opérons, c'est là que nous vivons. Et il nous donne tout ce qu'il faut, des récompenses pour le respect de ces lois, et puis des punitions pour la désobéissance. Et puis il nous tient au courant, il n'y a rien d'ambigu. Il est notre modèle, là aussi, pour ce qui concerne l'éducation, par exemple, de nos enfants, et aussi pour l'éducation des frères et sœurs dans l'Église, notre propre éducation, et puis aussi ce qu'on doit apporter. Si un serviteur de Dieu ici m'écoute, eh bien voilà, hein, on doit apporter, n'est-ce pas? Dieu est notre modèle. Dieu nous donne aussi, dans son amour, la possibilité de se repentir. Il ne veut pas qu'on échoue. Alors, ces lois, c'est vrai, elles sont pas négociables, mais il sait ce que nous sommes, il se souvient de quoi nous sommes formés, alors il a prévu le système, la repentance. Et nous aussi, nous devons utiliser la repentance. Avec la repentance vient le pardon complet. Dieu est aussi un modèle pour nous en cela, que ce soit avec nos enfants ou pour les membres de l'Église. Vous savez, avec Dieu, les punitions, elles ne tombent pas instantanément. Les récompenses non plus. Je me rappelle toujours d'une sœur qui m'avait dit « Ah, mais pourtant j'ai donné ma dîme et j'ai pas reçu au centuple. » Oui, ben voilà. Ça ne vient pas automatiquement. Dieu veut nous apprendre aussi en cela quelque chose, c'est que quand nos enfants font quelque chose de bien, ben c'est pas, il ne faut pas toujours récompenser. Parce que sinon les enfants, ils marchent à la récompense et puis finalement, ils pensent qu'ils nous achètent. L'amour ne s'achète pas. Dieu est notre modèle. Donc, si les récompenses ne sont pas instantanées, ben, les punitions non plus. Dieu est juste. Et nous devons aussi, avec les enfants, avec aussi nos frères et sœurs dans l'Église, nous devons leur donner à chacun la chance de s'excuser, de s'amender. Alors, dans notre vie prémortelle, Dieu nous a parlé longuement. Il nous a formés étroitement, notre esprit, en communion avec son esprit. Et puis, nous sommes venus sur cette terre. Nous étions en plein accord avec lui. Notre esprit savait très bien ce qu'il allait vivre ici. Votre esprit savait très bien ce qu'il allait vivre ici. Quelle sorte de corps vous auriez, quelle sorte de tare vous auriez, quelle sorte de qualité, de talent vous auriez, les circonstances que vous alliez rencontrer, tout ça. Par contre, votre âme, ben, c'est rien. En arrivant, votre esprit est entré dans le corps et ça a formé votre âme. C'est-à-dire, vous êtes devenu un être vivant. Être vivant, ça veut dire âme. Et votre âme, ben, elle apprend tout. On apprend à mesure. Et vous voyez, c'est cette histoire de à mesure qui, le psalmiste, c'était terrible pour lui. Il se voyait devenir vieux. Il disait, ne m'abandonne pas, Seigneur. Et il avait peur que parce qu'il était vieux, parce qu'il avait les cheveux blancs, alors Dieu allait l'abandonner. Vous savez pourquoi? Parce que ben, certainement, les jeunes prenaient la place et lui, il était un peu mis de côté sur un banc et on ne lui donnait plus tellement la parole parce qu'il était vu. Mon Dieu, ne m'abandonne pas. Eh non, Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu n'abandonne personne, jamais. Mais ton âme a besoin de l'apprendre. Et puis quand tu vois autour de toi, oui, c'est vrai, les gens nous abandonnent, voilà. Il y en a un jour qui m'a dit « Oh, puis de toute façon, t'as pris un coup de vieux. » C'est terrible, entendre ça, c'est terrible. Vous voyez, mais Dieu ne vous abandonne pas. Il a fait le choix, son amour agapao. Une personne spirituelle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Ça, on trouve dans Luc 2, 42. Et c'est frappant, le verset suivant, c'est-à-dire le verset 43, C'est écrit, une grande crainte, crainte de Dieu, s'emparait de chacun à cause des miracles que les apôtres faisaient au nom de Jésus. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain, dans les prières, et ils avaient la crainte de Dieu parce qu'ils voyaient Dieu agir. Quand on a simplement une religion, bon, on ne s'aperçoit de rien, mais quand on est avec le Dieu vivant et qu'on voit des choses extraordinaires se produire, comme ce que j'ai vu dernièrement, des aveugles qui retrouvent la vue, des paralytiques qui marchent, des bassins qui sont déviés, qui se remettent droits, des os qui sont attaqués par toutes sortes de maladies et qui redeviennent sains, des cancers qui disparaissent, des gangrènes qui disparaissent. Quand on voit comment Dieu, la crainte de Dieu, s'établit dans le cœur de ceux qui persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Vous voyez ? Alors Dieu nous a laissé venir sur cette terre et un jour, nos enfants nous quitteront pour faire des études ou pour mener leur propre vie. Comme nous, on a quitté le ciel pour venir sur cette terre, et bien là aussi notre Père Céleste, c'est un modèle. Tout ce que Dieu veut pour nous qui avons quitté le ciel pour venir sur cette terre, tout ce que Dieu veut, nous le voulons pour nos enfants. Nous le voulons pour nos frères et sœurs. Nous le voulons pour ceux que nous aimons. Alors tout ce que notre âme apprend, par les études, par les expériences, bonnes et mauvaises, tout ce qu'on vit, toutes les bonnes choses qu'on vit, toutes les mauvaises choses aussi qu'on vit, tout ça, ça a un but. Ça a pour but de nous aider en tant qu'âme individuelle à nous qualifier pour l'élévation. Ah, qu'est-ce que c'est ça ? L'élévation, c'est la glorification de notre âme. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Nous aurons des corps glorifiés. Il ne faut pas que quelque chose ou quelqu'un vous empêche de persévérer vers cette élévation. Il ne faut pas. Je vais le dire un petit peu différemment. Il ne faut pas que vous vous serviez des choses mauvaises qui vous arrivent ou des choses méchantes qu'on peut vous faire ou vous dire pour vous excuser, pour abandonner et d'arrêter de persévérer. Il y a l'élévation au bout. Attention. Ne vous servez pas d'excuses, mais bien sûr qu'il y a un manque d'amour, bien sûr qu'il y a des imperfections, bien sûr qu'il y a des infidélités, bien sûr qu'il y a des problèmes, bien sûr, dans les couples, comme dans l'église, mais c'est normal, dans chaque église. D'ailleurs, dans chaque âge de l'église, si vous étudiez Apocalypse 2 et 3, vous allez voir qu'il y a des vainqueurs et des vaincus. Mais les vaincus de l'Église de Jésus-Christ ne seront pas perdus. Simplement, ils ne parviendront pas au même degré d'élévation dans le monde futur. Mais ils ne seront pas perdus. Il y en a beaucoup qui pensent, voilà, ils seront rejetés, ils seront perdus. Mais non, ils ne seront pas perdus. Pour notre temps, Jésus nous met en garde. Pour notre temps, Jésus nous met en garde. Et il dit, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On trouve ça dans Matthieu 24, 12, 13. C'est ce qui correspond au quatrième sceau, c'est-à-dire à notre époque. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce qui fait dire à certains, voyez-vous, certains seront perdus. Non. Jésus ne dit pas que ceux de son église qui ne persévéreront pas jusqu'à la fin seront perdus. Il ne dit pas ça. Il dit que ceux qui ne persévéreront pas jusqu'à la fin ne seront pas sauvés de ce qui arrivera sous le cinquième sceau et sous le sixième sceau, c'est-à-dire ils ne seront pas sauvés de la grande tribulation. Ils seront sauvés, mais comme au travers du feu. Ne persévérant pas, ils ne seront pas enlevés avec l'épouse. Mais Dieu ne perd aucun des siens. Persévérer. Persévérer dans quoi ? Dans une doctrine ? non, d'un enseignement des apôtres, mais plus que ça, persévérer dans l'amour. Dans l'amour. Persévérer dans l'amour, c'est supporter que votre mari a vieilli, que votre femme a vieilli, hein, et que vos frères et sœurs sont plus tout à fait la même chose que quand ils avaient 20 ans. Ça veut dire beaucoup de choses, ça. Ça veut dire que, par exemple, les choses qui vous faisaient rire il y a 20 ans, le défaut du frère ou de la sœur qui vous faisait marrer, maintenant, ça, vous ne pouvez plus supporter. Ah, c'est pas à lui de changer, c'est à vous de changer. Bien sûr qu'il doit changer aussi, mais c'est surtout vous qui devez changer parce qu'il y a quelque chose qui s'est terni dans votre cœur à son égard. La vie les a peut-être endurcis, ils deviennent peut-être un peu pénibles en vieillissant. Il faut persévérer, aimer encore. Aimer plus avec la volonté qu'avec les sentiments. Un amour inconditionnel. C'est aimer. Persévérer, c'est aimer. C'est rassurer l'autre, c'est lui dire que vous l'aimez. C'est le rassurer, celui qui est faible ou celui qui est dans un moment où il est rendu faible à cause de ceci ou à cause de cela. Je ne te laisserai pas là. Il n'y a rien à changer. Je t'aime. N'oubliez pas de le dire. N'oubliez pas de le dire. Seigneur, je te prie de bénir ces quelques paroles que j'ai dites avec mon cœur, mais aussi que j'ai reçues par ton esprit, pour que mes frères et sœurs puissent avoir vraiment ce comportement pour te glorifier. Merci Seigneur Jésus de les aider chacun et chacune. Et que ton nom soit béni et que chacun puisse être béni. Merci Jésus. Amen. Amen. Soyez conscients de la présence de Dieu avec vous. Et allez de l'avant. À bientôt. Que Dieu vous garde.